Dans la première lecture, nous voyons les apôtres qui attendent la venue de l'Esprit Saint. On va la commémorer dimanche prochain, dimanche de la Pentecôte. Les apôtres attendent l'initiative de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la venue de l'Esprit Saint, mais pas d'une façon passive. Leur attente est active, même s'ils ne passent pas devant le Seigneur lui-même. Ils attendent dans la prière d'abord. La prière, c'est ce qui nous connecte à Dieu. C'est le réseau céleste par lequel nous pouvons être en relation avec lui, l'entendre et se faire entendre. L'aimer et se faire aimer, allais-je dire, mais ça, Dieu n'a même pas besoin de la réciprocité des hommes. La prière. N'abandonnons jamais cette respiration. Et tous les lieux comme celui-ci, nous le rappellent. Marie est vraiment maîtresse de l'apprentissage de la prière. Et Marie était avec eux. Les disciples, avec Marie et les autres saintes femmes, sont aussi non seulement dans la prière, mais dans l'espérance. Vous voyez, ils sont ensemble. Le fait d'être ensemble est un témoignage d'espérance. Ils partagent une même foi. Et ils ont conscience que le don qui leur est fait n'est pas seulement individuel, mais il est également collectif. Et c'est parce qu'ils sont ensemble, dans la même foi, dans cette unité, dans cette union de l'amour fraternel, qu'ils réalisent au nom du Christ et de l'amour du Christ qui précède cet amour fraternel, c'est ça l'espérance. L'espérance, ce n'est pas seulement anticiper l'avenir, c'est pas seulement voir le monde nouveau de loin, mais le voir réellement, par la foi, le monde futur. C'est aussi vivre dans le monde présent, même si c'est dans l'obscurité, mais en sachant que la foi, cette foi-là, est le roc de la vérité. Les commandements de Jésus sont des commandements qui reflètent, qui expriment la vérité. Et Marie confirme cela. Pour l'Évangile, c'est le grand thème de la glorification du Fils, mais pas seulement du Fils, la glorification des croyants par lui. La promesse de la vie éternelle, d'abord, c'est qui peut donner la vie éternelle ? On peut faire beaucoup de promesses technologiques, politiques, économiques, psychologiques, ici-bas. Mais ça restera dans la petite limite d'une vie humaine. La vie éternelle. Et on obtient la vie éternelle en connaissant Dieu. Et ça, c'est le raisonnement que Jésus tient. Jésus donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Connaître Dieu, ça implique aussi forcément de l'aimer, de le choisir. Mais, parce que sinon on n'arrive pas à le connaître, on reste en dehors du mystère. Et ce mystère de connaissance de Dieu est déjà réalisé dès maintenant, dès la vie présente. Nous n'y pensons pas assez, nous sommes destiné à la gloire, cette gloire du Fils qu'il veut partager avec nous. Et la gloire, ça n'est rien d'autre que partager la vie éternelle. C'est vivre sous le même toit que Dieu dans l'éternité. Le Christ nous fait connaître le nom du Père. C'était sa mission, c'est comme ça qu'il la résume. C'est la première intention du nom du Notre Père, cette prière qu'il nous a enseignée. Que ton nom soit sanctifié. Jésus a sanctifié le nom du Père. Et nous, par notre adhésion à son programme spirituel, que sont les évangiles, les commandements de l'évangile, nous sanctifions le nom de Dieu. Nous disons, c'est lui qui est saint. C'est lui qui est pur. Pas le monde. Pas les autres commandements qui se distinguent de lui. La sanctification du nom. Et puis ensuite, Eh bien, Jésus nous explique que la structuration de la foi, elle se réalise grâce à la mise en œuvre des commandements du Christ, ces commandements qu'il nous a laissés. Il n'y en a pas un nombre infini. Concrètement, s'écarter, rejeter le mal, se tourner vers le bien, aimer Dieu plus que soi-même, aimer son prochain comme soi-même, et ensuite les lois qui déclinent l'amour du prochain. Comment aimer le prochain? Aimer Dieu, c'est simple, il faut respecter ses commandements. Les commandements nous apprennent à aimer le prochain, pas directement Dieu, mais en même temps, c'est Dieu qu'on aime. Quand on met dans notre cœur ses commandements, la priorité de la vie, le respect, la non-violence, et enfin, on peut décliner toutes les vertus chrétiennes comme ça. Cette structuration de la foi la fait grandir. Quand des gens ont, je dirais, une philosophie chrétienne, ils disent qu'ils croient. Dans les statistiques, on voit ça, des gens qu'on ne voit jamais à l'église, mais qui ont la foi, disent-ils. Ils ne mentent pas. Mais en même temps, la mise en pratique n'est pas systématique. C'est surtout, en général, tel ou tel commandement. Sinon, ils ne se réclameraient pas du christianisme. Mais en fait, il y a beaucoup de commandements qui, jugement, colère, avarice, etc., qui ne sont pas respectés, voire adultères. Et leur structuration de la foi, n'est pas complète. Et donc, c'est pour eux, sans doute, que le Seigneur demande une purification plus grande. Pour ceux qui respectent vraiment les commandements du Seigneur, qui les mettent dans leur vie, il ne faut pas être scrupuleux, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des montagnes à renverser, des montagnes de perfection à gravir. Le Seigneur connaît notre imperfection. Il nous demande d'avoir un cœur immaculé comme celui de la Vierge Marie, mais non pas dans l'égalité, en quelque sorte, dans le désir surtout. C'est dans le rejet du mal et aller vers le bien, aller vers la lumière. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde. C'est un véritable jugement qu'énonce Jésus ici. Il y a d'un côté les croyants, ceux que le Père a choisis. C'est le Père qui nous a choisis, souvenons-nous toujours de ça. Pas seulement Jésus. Et il y a le monde, cette expression mystérieuse qui désigne quoi? Qui est dans le monde? Le monde, c'est une puissance d'opposition à Dieu. C'est pas une puissance endormie comme beaucoup de gens qui n'ont pas conscience de Dieu. C'est bien, c'est beaucoup plus actif que ça. C'est instrumentaliser Dieu, c'est s'opposer aux commandements, les défigurer comme Jésus fut défiguré pendant sa passion. C'est transformer rhétoriquement les commandements de l'amour ou de la vérité de sorte que la haine et le mensonge prennent la place, tout en ayant des étiquettes très propres. Ça, c'est le véritable mensonge, c'est la véritable opposition. Tout ce qui s'oppose à notre mouvement, au mouvement des âmes vers Dieu, c'est le monde. Voyez, le Christ est glorifié uniquement par les croyants. C'est ce qu'il dit, il le dit explicitement. Alors ça peut être au sens large, ce que l'Église professe d'ailleurs, tous les hommes de bonne volonté, mais ça ne va pas au-delà. Tandis que, vous voyez, c'est pas Dieu, dans l'enseignement de Jésus, c'est pas une divinité de la création, une divinité qui célébrerait la vie biologique. C'est pas ça. C'est pas un Dieu de la vie présente. C'est le Dieu rédempteur, créateur certes, mais pas pour faire de la création que nous connaissons une fin en soi. C'est pour faire de cette création un tremplin vers une éternité que nous ne connaissons pas. Nous devons être, vraiment en communion avec Dieu, en communion avec ce désir du Christ lui-même. Il s'écrit là dans le dernier verset qu'on a lu, tout son désir. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Voilà ce qu'on devrait vraiment écrire en lettres de feu, en lettres d'Esprit Saint, en quelque sorte, dans notre cœur, ce désir du Christ. Je viens vers toi. C'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est éventuellement le chemin, les étapes du chemin, mais pas la destination. Nous ne devons pas être en communion avec les valeurs incompatibles de l'Évangile, qui parcourent le monde, qui définissent finalement le monde. On voit dans les débats de société combien il y a, elles sont nombreuses, ces valeurs anti-évangéliques. On ne peut pas être en communion avec elles. On ne peut pas dire, moi je veux être en communion avec tous les hommes, et donc je vais être en communion avec toutes les valeurs que les hommes partagent. Comme ça, je me disputerai avec personne, je serai sympathique pour tout le monde. C'est impossible, c'est le contraire de ce que Jésus nous demande. Jésus ne nous demande pas de paraître sympathique par rapport à nos conceptions. Dans nos relations, oui, il faut être sympathique. Mais pas dans l'affirmation des valeurs de l'Évangile. Vous voyez, comme il y a des périodes où l'Église, ou ses représentants bien sûr, semblent un petit peu hésitantes par rapport au monde, elle veut faire des compromis, etc. Et alors là, elle perd vraiment de son souffle, elle perd de son exemplarité. On se dit, les gens se disent, à quoi bon cette Église qui finalement n'a aucune valeur à proposer, qui s'adapte comme un caméléon à toutes les valeurs du monde. C'est pas l'Église, hein. Mais il y a des périodes où telle ou telle Église est comme ça, parce qu'elle est composée d'hommes faillibles. Si l'Église n'a pas cette verticalité de la foi, son témoignage dans le monde est complètement nul. Nous ne devons pas accepter les valeurs qui sont incompatibles avec l'Évangile. Il faut accepter de vivre concrètement en exil sur cette terre. Nous ne sommes pas du monde. Et c'est ce que l'ascension, la résurrection d'abord, mais l'ascension nous montre avec une clarté parfaite. Nous deux, nous sommes en marche vers le Père. Nous devons l'accepter. Le monde n'est pas notre destination ultime. Nous sommes dans le monde, alors oui, nous essayons de rendre le monde plus beau, plus lumineux. Mais nous ne faisons pas de ce monde le point d'aboutissement de notre foi, de notre espérance. Nous visons bien plus loin. Acceptons cette perspective. Oh, vertigineuse, j'en conviens, mais acceptons d'avoir le vertige, ayons le courage d'avoir peur.